Pardon, non,
je suis pas jésuite. Je vais vous parler de mes problèmes de santé parce que je suis malade.
Ok, je peux vous présenter?
Bah, si tu veux, oui.
Donc, mon père, vous êtes un familier de cette aumônerie puisque vous avez été prince de cette maison
vrai.
Il y a pas longtemps.
Oui, c'est vrai.
Et vous avez écrit Les racines juives de la messe, mais aussi Transcendance climatique. L'immanence du. Si, si, mais vous avez oublié. Et aussi Foulard épinard pour une herméneutique des signes du divin. Vous allez nous présenter aujourd'hui l'adoration eucharistique, toujours dans le même thème. Merci, mon père.
Alors, pour. Pour faire du mal à la forêt amazonienne, je vous ai imprimé des trucs. Parce que mon cœur est plein de fiel. Et donc je me suis dit, on va accentuer le réchauffement climatique. Parce que j'ai des problèmes de chauffage aussi chez moi. Bon, je suis malade, en fait, j'ai une angine. Je pense que vous en foutez globalement, mais ça veut dire que... C'est vrai, non, mais du coup, je n'ai pas l'esprit très... Ça risque d'être pas très clair, en fait. C'est Grégory qui a dit ça? Carton jaune, 10 minutes. Protocole commotion, là. Comme contre les Australiens, là. C'était un beau match, ceci dit. Moi, j'ai bien aimé. C'était un beau match. Alors, l'adoration eucharistique, bon, il y a plein de manières. Étienne m'a rappelé que j'avais fait une conférence sur le sujet. Il y a 2 ans, mais j'avais complètement oublié le truc. Donc, mais il y a plein de manières d'entrer dans cette pratique, spirituelle et liturgique à la fois. Hein, c'est ça qui est un peu les deux. Alors j'en ai choisi une, un peu en clé franciscaine, parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte. Ah voilà, donc vous dormiez pas encore à ce moment-là, bravo. Elle est étonnante cette femme. Hein, c'est les tout débuts de... Enfin voilà, donc du coup ça va un peu dans... Puis je me suis dit, il y avait le frère Éric Bidot, c'était... Bon, je me dis, bon, on va prendre... Et Saint-François est un très bon témoin de parce que tout s'est joué à ce moment-là, en fait, de ce changement, de cette nouvelle... c'est comment dire... C'est à la fois une nouvelle théologie eucharistique, mais qui a entraîné une nouvelle dévotion eucharistique. Tout s'est joué au 12e et au 13e. Quand vous ne savez pas... Si on vous pose une question, si c'est grec, vous dites Origène, si vous ne savez pas, qui le premier a inventé ta... Vous savez, vous dites Origène, 9 fois sur 10, c'est ça. Si c'est latin, alors essayez d'abord Augustin. Si c'est pas ça, vous dites le 12e siècle. En général, c'est bon, ça colle. Ça, il y a beaucoup de choses qui sont passées à ce moment-là. Alors, je vous ai fait une petite feuille, là, il y a 2-3 textes qu'on va lire ensemble, mais oui, Saint-François d'Assise... Peut-être vous savez, est-ce que c'est pour ça que ça s'appelait François? Ça, je crois que c'est discuté par les historiens, mais il était très désireux d'implanter, pas son ordre, parce qu'il ne voulait pas que ce soit un ordre, mais sa fraternité de pénitents en France. Il est aimé à France. Alors pourquoi ça? Parce qu'il estimait qu'il y avait une dévotion eucharistique très singulière, très spéciale. Ça, c'est Thomas de Chanou, on lira le texte tout à l'heure, mais je lis déjà cette phrase. On dit, donc il rapporte que François d'Assise affirmait « Les Français me sont particulièrement chers, parce qu'ils ont plus de respect qu'aucun autre peuple pour la Sainte Eucharistie. » Pas mal, ça, hein? Alors, à quoi fait allusion François, finalement, hein? Alors, d'après les historiens de la spiritualité de franciscaine, c'est que, sans doute, François, qui avait dû... passé en France, ou peut-être son père, enfin, quand il était encore commerçant, là, en drap, des trucs comme ça, mais il avait dû assister à un rite tout nouveau dans la célébration eucharistique, qui est l'élévation eucharistique. Vous savez, le moment après au moment de la consécration, donc le prêtre élève le pain consacré, et puis ensuite, la coupe consacrée, et il y a un mouvement de vénération, d'adoration des fidèles. Hein. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs? Vous inclinez, c'est ça, hein? Parce que moi, je vous vois plus, là, parce que moi, je fais une génuflexion. J'ai l'autel entre vous et moi. Je vous vois plus, c'est ça que je veux dire. Enfin, vous inclinez, vous faites un truc quand même. Voilà. Non, parce que j'ai été laïque, mais c'était il y a tellement longtemps que je... Enfin, grâce à Dieu, j'ai pu, on peut s'en sortir. Donc. Je rigole, pétard, c'est bon. On a le droit de rigoler un peu. Donc, ouais, c'est... Et alors, et ça, ça avait marqué François, sans doute. Hein. Il disait, mais pourquoi ? Alors, en France, il y a une espèce de, voilà, d'adoration, de vénération de l'hostie. Et qui dit, bah, c'est pour ça que les Français me sont chers. Ils ont, c'est de tous les peuples, ceux qui ont la plus grande vénération pour l'Eucharistie. Alors, ce rite liturgique... Figurez-vous que, toujours d'après les historiens, je ne sais pas si c'est des gens très fiables, enfin bon, ça c'est une autre question, mais enfin, ils nous disent que ça serait un évêque de Paris qui a inventé cette pratique. Vous voyez, au XIIe siècle, déjà on nous a changé la religion, comme quoi c'est pas de hier. Hein. Alors c'est Eudes de Sully, qui était archevêque de Paris de 1196 à 1208. Probablement, d'ailleurs, c'est dans le cœur de Notre-Dame, il y a des je sais pas, c'est juste des plaques ou s'il y a les tombeaux, des pas. Enfin, je pense qu'il y est, hein, parmi tous les évêques de Paris. Je sais qu'il y a Étienne Tempier, qui est célèbre pour avoir condamné saint Thomas. Je vais toujours faire une petite dévotion pour Étienne Tempier. Enfin, c'est plus tardif. Hein, donc. Alors, Eudes de Sully, il aurait ordonné en 1198, en tout cas, ça c'est attesté, c'est sûr. Est-ce que c'est le premier ? C'est ça la question. Hein. Enfin, on est sûr qu'en 1198, il a demandé que, à Paris, puis ça s'est étendu assez rapidement en France, on élève l'hostie juste après la consécration pour manifester l'acte de foi dans la présence réelle du Christ. Et Honorius III, c'est pas très longtemps après, hein, il a été pape de 1216 à 1227, donc c'est 20 ans après, je pense. Il a étendu l'usage à toute l'Église. Oui, c'est étonnant comment souvent les fêtes, c'est vrai qu'il y a toujours une origine locale, mais pour passer d'un truc qui est fait à Montargis, quoi, quand il y a au salon de la pantoufle et de la charentaise à Montargis, il y a une dévotion pieuse, mais avant que ça devienne une fête solennelle pour l'Église universelle, il y a 2-3 siècles. Hein. Par l'occurrence, je crois pas qu'il y ait eu de truc en rapport au salon, enfin bref. Mais, et là, en 20 ans, c'est universalisé. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a comme un kairos, en fait. Il y a un truc important qui a Honorius III. Et sans doute sous l'influence franciscaine. C'est pour ça que tout est dans tout et réciproquement. La réciproque étant facile à prouver quand vous avez démontré le sens direct. Donc, il y a un lien entre la France, enfin Paris même, Paris, les franciscains. Qu'est-ce qu'il a dit ?
Martyrisé.
Paris humilié, mais Paris libéré, voilà. Entre Paris, ce qui est l'embryon de l'adoration eucharistique, puisque c'est ça l'embryon dans la messe, en fait, de l'adoration eucharistique, on élève l'hostie et on la vénère, et les franciscains. C'est pour ça que je vous parle de saint François. Sans doute aussi, alors il y a quelque chose d'un peu parallèle mais qui va se rencontrer, c'est la fête Dieu. Donc c'est, alors ça c'est sous l'influence, c'est pour le coup c'est pas une franciscaine mais c'est une très grande sainte qui s'appelle sainte Gertrude, alors ça doit se dire Gertrude parce que c'est par là-bas de Delftin, alors je ne sais pas, ça doit être en Allemagne dans ces coins-là, dites la grande. Parce qu'il y a plein, il y a plusieurs. Au XIIIe siècle, il y a toute une dévotion cistercienne féminine autour à la fois du cœur de Jésus et de l'Eucharistie. C'est assez, alors Gertrude, elle est dans ce. Et alors Gertrude, dite la grande, elle, ce qu'elle développe, c'est l'adoration des 40 heures. C'est-à-dire qu'on va faire de l'adoration du Saint-Sacrement, donc il y a le mouvement à la messe de l'élévation, ça c'est nous. Et Gertrude, elle dit, mais on va faire en dehors de la messe, on va adorer le Saint-Sacrement 40 heures, parce que, pourquoi 40 heures d'ailleurs ? Tiens, est-ce que vous pouvez deviner, vous qui avez fait des études et qui n'avez pas un cerveau usé, puis surtout rapport au fait que moi je suis malade, je ne sais pas si je vous en ai parlé, et donc je ne suis pas très en forme. 40 heures, qu'est-ce qui a duré 40 heures ? Non mais j'ai pas dit 40 ans, j'ai dit, qu'est-ce qui a duré 40 jours, à peu près, hein ? 40 heures, je veux dire. Voilà, bravo. C'est le temps passé par Jésus au tombeau. Vous voyez, parce qu'il meurt le vendredi. Bon, il y a le samedi, et il ressuscite, mettons, le dimanche matin. Alors, je sais pas trop comment elle fait les calculs, Gertrude, mais peut-être elle a eu une révélation. Hein. Non, mais peut-être Jésus lui a dit ça a duré 40. Mais l'idée... Non, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que comment est-ce qu'elle conçoit l'hostie ? Enfin, le mouvement de... Ce qu'on trouve encore, hein, vous savez, le jeudi saint, souvent, on adore... au reposoir, alors jusqu'à minuit ou un truc. Le samedi, on n'a plus le droit. Hein, mais, donc là, on n'a pas suivi ce que disait Gertrude. Mais ça veut dire comment elle conçoit ce geste d'adoration du Saint-Sacrement. En fait, c'est un peu comme on reste... on tient compagnie, enfin, je ne sais pas comment on contemple. Enfin, Jésus, mais dans un état très particulier, qui est le corps mort de Jésus. Alors, le corps mort de Jésus, est-ce que c'est un cadavre? Rappelez-moi ça, c'est un cadavre, le corps mort de Jésus, rappelez-moi ça.
Il reste unanime.
Bravo. Alors là, bravo Étienne. Comme quoi, tu dors pas toujours. Hein, tu dors en... Bravo. Vous saviez ça que ça, c'est très important dogmatiquement. Hein. Le corps de Jésus n'est pas soumis au processus naturel de corruption parce qu'il reste uni à l'hypostase du Verbe. Ce qui est très très difficile à penser dogmatiquement. Hein. Mais c'est essentiel. Alors c'est ça, moi je trouve ça génial, enfin, Gertrude, je sais pas comment, je vais pas me rentrer dans ces histoires, elle dépasse tout le monde en termes de perception de ce geste-là. Donc pourquoi corps mort? Parce que l'hostie, au moins dans l'apparence, c'est un objet immobile, vous voyez, il y a quelque chose d'inerte, vous voyez, hein, une hostie même consacrée, dans l'apparence, comme on la voit, ça donne pas l'impression que c'est un homme vivant et encore moins un Christ ressuscité. Et pourtant, il y a la divinité. Mais retenez ça, c'est que pour elle, parce que là, elle est vraiment, je vous dis, elle écrase tout le monde, c'est la divinité en tant que... C'est la divinité qui reste unie à Jésus après sa mort. C'est comme ça qu'elle comprend le truc. Alors, comme elle était très sainte, cette femme, et qu'elle avait de l'influence sur les papes, donc elle a fini par dire au pape Urbain IV, qui était très poli, hein, c'est très très urbain, enfin, très, voilà, le pape Urbain IV, et donc finalement elle a dit à Urbain, tu vas signer la bulle Transiturus, et Urbain a dit oui chef, et donc il a signé la bulle Transiturus en 1264, qui va généraliser la fête Dieu, et notamment à l'occasion de la fête Dieu, donc du Corpus Domini, hein, c'est les processions du Saint-Sacrement. Oui, donc il y a des dévotions liturgiques un peu, ça se cherche encore, hein. Il y a l'élévation de la messe, on cale les 40 heures, les processions avec le dé et tout ça, et puis bon. Mais c'est tout ça, c'est à cette époque-là, disons, fin 12e, début 13e, qu'il y a quelque chose qui se passe, on veut voir l'hostie en fait, on se dit il y a quelque chose à recueillir spirituellement de la vision de l'hostie. Alors Transiturus, pour votre culture théologique, c'est le premier document magistériel. Je ne saurais pas dire quel est le premier document théologique qui en parle, mais en tout cas, c'est le premier document magistériel qui utilise une expression assez maladroite, d'ailleurs, à propos de l'Eucharistie, puisque c'est le premier qui parle de la presentia realis, pour dire la présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors, c'est maladroit parce que... Alors, tiens, Étienne, dis-toi qui c'est... Pourquoi c'est maladroit ?
Non, parce que
parce que la reste de l'Eucharistie, c'est quoi?
Ah, c'est la charité.
Voilà, bravo. Il est bon quand même, hein. Il est bon, hein. Et en termes scolastiques, ce qui correspond à la présence réelle, en termes scolastiques, c'est pas donc la res, c'est pas non plus le sacramentum, c'est...
Entre les deux,
ça vous appelle ça? Non, bah alors... Bravo, mais pétard, mais bien. Le res est de sacramentum, bravo. Donc, allez voir la question 64 Tertia Pars, où Thomas explique ça. Donc, alors, pourquoi c'est pas très heureux? Parce que presentia realis, ça donne l'impression que la réalité, la res, c'est-à-dire la finalité ultime du sacrement, c'est que Jésus soit présent dans l'hostie. Or, ça n'est pas ça. La finalité ultime du sacrement, c'est que Jésus édifie son corps, qui est l'Église, par la charité. Donc, la res de l'Eucharistie... Étienne a dit la charité, c'est plutôt comme ça que Thomas d'Aquin voit les choses, mais aujourd'hui, on dit même... c'est à peu près la même chose, c'est l'Église. Et alors, ce qui correspond à la présence réelle, c'est le res et sacramentum. Bon, on va pas chipoter, Urbain a quand même fait du bon boulot. Pourquoi ce changement, en fait? Pourquoi on s'est mis à faire l'élévation, les 40 heures, la fête Dieu, les processions et tout? En fait, ça s'explique, c'est une réaction à tout un courant à la fois de malentendus et d'hérésies qui portent sur l'Eucharistie. C'est la cause... C'est comme souvent, hein, c'est quand il y a des problèmes, on précise les choses, alors parfois dogmatiquement, mais là même ça a une influence liturgique et dévotionnelle. Donc c'est très certainement une réaction à l'hérésie de Béranger de Tours. Alors Béranger de Tours, c'est 11e siècle, donc c'est un siècle, enfin deux siècles avant tous ces gens-là, c'est 998-1088. Il a vécu vu, hein, comme quoi les hérésies ça conserve, hein, parce que 90 balais, je suis pas sûr de les atteindre. Hein. Et Béranger de Tours, en tout cas les gens qui l'ont condamné, avaient le sentiment que sa compréhension de l'Eucharistie et de cette fameuse présence du Christ dans l'Eucharistie était trop faible. Il réduisait, en tout cas c'est de ça dont on l'accusait. Alors, ce qu'on appelle la conversion eucharistique, c'est-à-dire il y a un changement à la messe, le pain devient autre chose, ceci est mon corps. Donc la conversion eucharistique, on avait l'impression qu'il la réduisait à un symbolisme subjectif. Alors bien plus tard, par exemple, qui c'est qui fera un peu la même chose ? C'est un peu méchant de dire ça, parce que Luther, il continue de... C'est... Mais vous êtes sur la piste. Oui, alors ça, c'est encore... Alors ça, pour le coup, c'est avant Luther. Mais non, mais c'est plutôt calviniste, vous voyez. C'est plutôt... Calvin comprend, en fait, l'Eucharistie exactement comme le baptême. Il y a une espèce d'occasionnalisme d'un acte de foi, mais pour Luther, c'est... il y a un petit peu plus de... Simplement, ça dure que la durée de... c'est que la durée de la messe. Alors, Béranger, excusé du peu, il a été condamné par 14 conciles locaux. Ça fait quand même classe. Non, mais sur, vous voyez, sur une carte de visite, normalien, agrégé, condamné par 14 conciles locaux, abonné au Gaz de France, ça fait quand même assez classe. Hein. Mais enfin, alors, mais c'est pas isolé. C'est-à-dire que Béranger est surtout intéressant parce qu'il est symptomatique d'une crise de... La sacramentaire, en fait, de la théologie eucharistique. Peut-être je vous ai déjà raconté ça, en fait, mais bon, tant pis. Béranger est plus un symptôme qu'une cause, en fait, voilà, c'est ça. Bon, ça ne peut pas dire qu'on a eu tort de le condamner, hein, mais enfin, c'est jamais un type tout seul qui va changer quelque chose. Hein, c'est, mais enfin, grâce à lui, on se rend compte du danger qu'on court, et donc on va rien. Parce que s'il y a des pensées diffuses, enfin, des malentendus diffus, qu'on va essayer de. On veut ancrer dans l'esprit des fidèles que la messe n'est pas qu'une sorte de pièce de théâtre. Ce qui était un peu la manière dont, dans les commentaires liturgiques, alors notamment, il y en a un très célèbre qui est celui de Guillaume Durand, dont on comprenait la liturgie. En fait, on disait, c'est aussi lié à la célébration des mystères au Moyen-Âge, mais on disait, pourquoi est-ce qu'on fait tout ce micmac avec un mec voilà, qui est bien sapé. Vous avez vu, moi je suis toujours bien sapé à la messe, hein. J'ai du blanc, j'ai des trucs, des beaux habits, la belle chasuble et tout ça, on fait des machins. Et en fait, on s'est dit, bon, bah, il y a un peu comme une sorte d'estrade. On comprenait la liturgie un petit peu comme une pièce de théâtre. Voilà, comme on représente quelque chose. Voilà, on donne une représentation, comme une représentation théâtrale, de la passion de Jésus. Et Jésus arrive lui-même, à un moment donné, bon, bah, il sort des coulisses, et alors il devient pas vraiment acteur, mais il arrive dans l'hostie. Avec ce risque, je dis pas que c'est pas forcément idiot hein, d'utiliser le théâtre, hein, pensez à la dramatique divine hein, de Hans Urs von Balthasar, c'est génial et il comprend bien toute l'œuvre du salut comme un grand drame, donc comme une grande pièce de théâtre. Je dis pas que c'est idiot, mais ça pouvait là encore favoriser l'idée, voilà, si la messe n'est qu'une représentation extérieure du mystère, on sent qu'il nous manque un truc. Ouais, on se dit, mais c'est trop faible, il y a plus que ça, la messe, il y a plus que ça, et Jésus est plus présent que simplement si, par exemple, on décide, ce qui peut être très bien, hein, des enfants du caté, on peut leur dire, tiens, faites une petite scénette pour Jésus, bon, bah, c'est très bien, mais on se dit, mais il y a plus dans le sacrement, c'est pas juste représenter théâtralement un mystère de la vie de Jésus. Donc, c'est pour lutter contre cette interprétation affaiblissante de l'Eucharistie, que y a eu toute cette l'élévation, la fête de Dieu, l'adoration et tout le toutim. Au plan dogmatique, je vous ai parlé de la liturgie, de la dévotion, mais au plan dogmatique aussi, on a voulu verrouiller les choses. Voilà, cadenasser la pensée, contrôler les esprits. Et donc, on le fait au cours d'une opération de police de la pensée, ça s'appelle un concile, non, c'est pour rigoler, je rigole, c'est un concile, c'est l'Esprit Saint, la 34, grand concile, merveilleux concile. Merveilleux concile qui, alors c'est une collection de canons, c'est complètement décousu la 34. Hein. Vous avez un canon magnifique, alors notamment un canon très important, c'est celui dont, à propos duquel je vais vous parler, parce que c'est le premier texte magistériel où on trouve le vocable nouveau de transsubstantiation, toujours pour la même chose, pour dire ça n'est pas que un symbole extérieur, ça n'est pas qu'une image, ça n'est pas qu'un dessin. Donc ce premier texte magistériel qui utilise ce vocable sous la forme du verbe, hein, transsubstantiare. Et puis juste après, vous avez un canon qui interdit aux prêtres de pratiquer la chasse aux faucons. avec la même, les mêmes condamnations. Donc là, on se dit, je ne suis pas en train de défendre la chasse aux faucons pour le clergé. Enfin, vous me direz, on a d'autres problèmes actuellement. Mais c'est vrai qu'on se dit, les mecs manquaient un petit peu de recul, quoi. Puis le canon d'après, c'est sur les insolences des Grecs, où ils disent, puisque les Grecs disent qu'on n'est pas validement ordonné si on n'a pas la barbe, on va imposer aux Latins d'être glabres. À cette époque-là, les prêtres, on ne pouvait pas être prêtre si on avait la... Il fallait être rasé. Donc des fois, alors c'est très marrant à lire les. Alors il y a 88 canons, 90, je sais plus. Mais enfin, il y en a aussi très très importante. Il y en a un extraordinaire sur en réponse au Qatar. Enfin, il y a du très lourd au niveau dogmatique. Et puis il y a du Coluche, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Ça s'appelle un concile. Il y a toujours du très lourd et un peu de Coluche dans les... Bon, allez. Alors, donc on voit bien qu'il y a une ligne de fond qui veut solidifier, enfin qui veut faire comprendre aux fidèles et aux théologiens et dans la liturgie que oui, le Christ est présent dans l'Eucharistie. Ah oui, tiens, le canon Bannuérant, je vous l'ai mis là, tiens, je vais vous le lire. Il n'y a qu'une seule Église universelle des fidèles, c'est le texte 1, là, il n'y a pas de numéro. Mais... Hors de laquelle nul n'est absolument sauvé, oui, aujourd'hui on dirait un peu autrement, et dans laquelle Jésus-Christ est le prêtre et la victime dont le corps et le sang sont véritablement dans le sacrement de l'autel. Ah, véré. Véré. Alors, peut-être ça vous paraît très naturel, mais c'est bizarre de dire véré à ce moment-là. C'est bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Sous les espèces du pain et du vin, le pain étant transsubstantié. Voilà, alors transsubstantié, on trouve ce mot dans l'évangile ? Non, ça vient d'où la transsubstantiation ? Ça sonne quoi à vos oreilles ? Ça sonne Aristote, hein ? Aristote, dont Tertullien disait que Aristote c'était le patriarche des hérétiques, c'est ça ? Ou c'était les philosophes en général ? Je crois qu'il le disait d'Aristote, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'hérésies, notamment trinitaires, qui viennent d'Aristote. Eunome, il était complètement aristotélicien, par exemple. Bref, voilà un mot pas du tout traditionnel qu'on est allé chercher dans le pensable disponible de l'époque et ce qui était nouveau en magasin, hein, ça venait d'apparaître, hein, c'était à la mode, c'était Aristote, et on utilise ce mot-là pour faire sentir, pour dire oui, c'est bien réel, c'est bien là, c'est bien lui, ça n'est pas qu'un truc extérieur. Donc, le pain étant transsubstantié au corps de Jésus-Christ et le vin en son sang par la puissance divine. Afin que pour rendre le mystère de l'unité parfait, nous recevions du sien ce qu'il a reçu du nôtre. Alors là, ça c'est quand même intéressant. C'est pas uniquement l'Eucharistie, ça s'arrête là, c'est que nous recevions de son corps ce qu'il a reçu du nôtre. C'est-à-dire qu'heureusement, on parle de la communion. Le but, c'est pas simplement on fabrique Jésus aussi, puis on s'arrête là. Non, il faut communier. C'est un vecteur de la grâce, hein, comme tous les sacrements. Tous les sacrements sont vecteurs de la grâce, et en tant que tels, est-ce qu'au ciel, il y aura encore des sacrements ? Est-ce qu'on célébrera encore la messe ? Non. Est-ce qu'on célébrera les mariages ? Non plus. Au ciel, il n'y a que la res, hein, il n'y a plus les signes. Hein, donc, c'est comme ça. Hein. Donc, il n'y aura plus d'adoration eucharistique au ciel. Hein. Enfin, il y a Jésus. Ça me rappelle une petite blague, d'ailleurs. C'est pas une blague, je crois que c'est... Enfin, je sais, bon... C'est un prêtre qui était pas content. Alors attendez, faut qu'on raconte bien la blague. Mais c'est pas une blague en fait. C'est une brave dame cathée qui était pas contente parce que elle avait voulu, ce qui est très bien, prendre des enfants du cathé un peu petits pour les initier à l'adoration du Saint-Sacrement. Puis c'était le bazar. Ils discutaient, ils jouaient. Enfin, ils avaient le bazar. Donc c'était pas du tout la belle assemblée pieuse qu'elle imaginait. Et alors, elle est allée se plaindre au curé, elle dit, mais quand même, je suis pas très content, les enfants, ils devraient comprendre, et tout ça. Puis alors le curé, toujours, nous on est des bonnes pattes, hein, nous, alors le curé dit, oh, bah, vous savez, ma bonne dame, À Cana, il y avait sûrement aussi des enfants qui devaient jouer, qui devaient crier, qui devaient... Et la dame répond, oui, mais à Cana, il n'y avait pas la présence réelle. Tout est là, en fait, tout est dans cette blague. Donc au ciel, ça sera plus comme Cana que comme une adoration de 5 ans, mais on y gagne, hein, d'une certaine manière. C'est... Alors moi, qu'est-ce que je dis? C'est que les saints n'arrivent pas par hasard. Ça, c'est un truc que je crois profondément, c'est que... toute l'infaillibilité de l'Église, à mon sens, elle dérive de la capacité de l'Église à dire cet homme ou cette femme est saint. C'est pour ça que l'Église est infaillible, en fait. Hein. Elle peut dire le mode de vie de Saint François, de Sainte Gertrude, de ce que... C'est un prolongement de l'Évangile. Et donc, je pense, et c'est à mon avis, l'infaillibilité même dogmatique de l'Église dérive d'un charisme que l'Église, que Jésus a confié à toute l'Église, c'est-à-dire à la fois au peuple qui est capable de reconnaître la sainteté, mais avec un contrôle évidemment aussi des évêques et du pape, parce que surtout au Moyen-Âge on a voulu un peu verrouiller les choses, donc il y a toute une procédure, mais à un moment donné on dit un tel, une telle est saint, et les saints n'arrivent pas par hasard, c'est souvent par eux que le Seigneur nous indique une direction, et notamment en période de trouble, période de... voilà. Ah ben on dit, ben, tiens, les ordres mendiants, c'est aussi pour répondre à un certaines situations sociales et religieuses au Moyen-Âge, Ignace c'est au moment de la Réforme, Saint-Benoît c'est au moment de la chute de l'Empire romain, c'était bien le bazar, enfin après l'Empire romain, mais... Et donc je pense que François, je reviens à mon Saint-François, il est là de manière providentielle, notamment dans son rapport à l'Eucharistie. À l'époque de François, ou fin 12e, début 13e, c'est assez beau d'ailleurs, beaucoup de mouvements réformateurs, beaucoup de mouvements... d'origine laïque en général, hein, c'est mécontent de la tournure que prenait l'Église, parce que dans le mouvement, notamment en Italie, des communes, d'un enrichissement, d'un embourgeoisement, c'est là que ça commence, comme disait Marx, hein, je pense. Et les curés, évidemment, sont aussi du côté des riches, et donc et parfois les curés n'étaient pas des modèles de sainteté, donc il y a une perception d'un affaissement spirituel de la hiérarchie. On s'installe trop dans le monde, finalement. Voilà, on s'installe trop dans le monde, à commencer par la hiérarchie. Alors, Dieu, alors, du coup, effervescence, mais comme souvent, ça part dans toutes les directions, et le meilleur, il côtoie le pire, en fait, dans ces mouvements-là, hein, quand il y en a. Alors, il y a le pire, mais le meilleur, c'est les saints, justement. C'est François. Alors, il y avait beaucoup de trucs qui ressemblaient à ce que faisait François, à tel point que des fois, on les confondait. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi François a eu parfois un peu des petits ennuis. Mais. Justement, on a reconnu que François était suscité par Dieu, c'est qu'il a toujours profondément respecté l'Eucharistie et donc les prêtres, y compris d'ailleurs les prêtres qui étaient des fripouilles. Parce qu'il disait, mais c'est par les prêtres qu'on a l'Eucharistie. Il était tout à fait lucide sur le défaut de sainteté des prêtres. Il disait, mais n'empêche que c'est par eux qu'on a l'Eucharistie. Alors du coup, là, voilà, l'Église... Alors, bon, on pourrait donner une lecture Nietzschéenne de la chose, mais en tout cas, du coup, les évêques ont dit celui-là, il est bien. Non, mais il a tellement fait du bien, Saint-François, que l'Église ne s'est pas trompée en le canonisant. Alors, par exemple, on peut lire ce que dit Thomas de Celano, ça, c'est dans sa deuxième vie, là, en 1247, c'est donc le premier biographe franciscain de Saint-François. Il parle de la dévotion... De François, à la fois pour l'humanité de Jésus, ça c'est un tournant de l'époque, et en plus c'est made in latinum, donc enfin je veux dire, c'est pas un truc du tout que les orthodoxes ont, ça c'est très latin, comme cet immense amour de l'humanité de Jésus. Mais en même temps, ça va avec l'Eucharistie. Alors, je vous lis Thomas de Celano. « La ferveur pour le sacrement du corps du Seigneur était en lui, en François d'Assise, très profonde. Il n'en finissait pas de s'émerveiller à la pensée d'une condescendance si aimante, d'un amour si condescendant. » Quand François voit l'hostie, il voit l'amour condescendant de Dieu pour les hommes. « C'était, d'après lui, gravement méprisé ce sacrement si l'on entendait chaque jour, sauf empêchement, au moins la messe commune. » Tu sais, la mère de la Batte, elle ne mouffetait pas, hein, parce que normalement, ce que dit l'Église, c'est la messe, c'est le dimanche obligatoire. Et lui dit, non, mais quand on aime vraiment Jésus, c'est tous les jours, en fait. Hein. Ce qui était je pense, devait surprendre les gens. Il communiait souvent lui-même, et sa dévotion était communicative. Il y apportait tout le respect dû à ce sublime sacrement, faisait le sacrifice de tout lui-même, et en recevant l'agneau immolé, il immolait aussi son esprit, utilisant pour cet holocauste le feu qui brûlait continuellement sur l'autel de son cœur. Et puis là, la phrase de tout à l'heure, il aimait la France. J'appelle ça la France du général de Gaulle. Il aimait la France. Parce que la France aimait le corps du Christ. Mais c'est vachement beau cette phrase. Si ces Allemands, c'était encore vrai. Bah, c'est encore un petit peu vrai grâce à vous quand même. Hein. Non, mais sans rire, on a encore un petit quelque chose. Hein. Faut pas nous enterrer trop vite. Et il aurait désiré mourir dans ce pays à cause du respect qu'on y témoignait au Saint-Sacrement. Bravo François. Il voulut parfois envoyer par le monde ses frères munis de ciboires précieux avec mission de placer en lieu digne de lui le prix de notre rédemption lorsqu'il le verrait conservé dans des conditions peu décentes. Mais par exemple, nos frères orthodoxes, pour lesquels j'ai beaucoup d'admiration pour la spiritualité orthodoxe, mais c'est un truc... Ils conservent les hosties après la messe, mais c'est pas du tout visible dans les églises, c'est juste pour le viatique. Un truc que nous, on fait facilement, mais ça, c'est très latin, deuxième millénaire, c'est entre autres lié à ça. On a un peu de temps, on passe devant l'église, on dit, on va saluer le Saint-Sacrement. Mais le Saint-Sacrement exposé, il y a peut-être parfois des fraises, des belles fraises, il y a la petite loupiote, là, je sais plus comment ça s'appelle, canopée. Non, il y a un truc, il y a un mot spécial pour la petite loupiote rouge, là. Et puis alors on se met à genoux, même que 5 minutes en fait, même que 5 minutes. Mais voilà, ça c'est pas du tout chez nos frères orthodoxes. Alors François lui dit, mais non, il faut des beaux tabernacles, faut des beaux ciboires. Il voulait enfin qu'on témoignât, parce qu'à l'époque on disait l'imparfait du subjonctif, le plus grand respect aux mains des prêtres qui ont le pouvoir d'opérer ce mystère. S'il m'arrivait, disait-il souvent, de rencontrer ensemble un saint venu du ciel... Oui, Saint Ambroise, enfin le tout gros truc, quoi. Hein. Saint Tripode, Saint Cucufa, ce grand martyr de la Vienne en Gaule au IIIe siècle, que nous aimons à prier tous les jours, Saint Cucufa. Quand ma sœur et son mari cherchaient un prénom pour mon neveu, finalement ils l'ont appelé Michel, mais pour l'emmerder, c'était des chartistes. Hein. Donc il est là, Gabriel. Il est parti, Gabriel. Donc les chartistes, ils ont un peu quelque chose dans la tête qui fait qu'ils ne fonctionnent pas tout à fait comme nous. Et alors, donc évidemment, ils sont très savants. Et alors, mon beau-frère prenait un malin plaisir à suggérer des noms, mais complètement invraisemblables. Et ça foutait ma sœur en rogne, disant, mais on ne va pas l'appeler Cucufa. Ils disaient, mais c'est à l'école. Cucufa au tableau. Mais il n'y a que les chartistes pour savoir que... Enfin bon, bref. Tu peux rouvrir les oreilles, Gabriel. Alors, donc, mettons Saint Cucufa descend du ciel, et n'importe quel pauvre petit prêtre, on pourrait même ajouter un prêtre bien pêcheur, hein, un prêtre concubinaire, hein, comme il y avait à l'époque et encore maintenant, mais enfin bon, bref. Je commencerai par présenter mes respects au prêtre en lui baisant aussitôt les mains, et je dirai un moment, Saint Laurent, non, c'est pas Cucufa, c'est Laurent. Mais Laurent, c'est du tout gros truc, hein, Laurent, c'est dans le canon romain, c'est le... Le trésor de l'église, c'est les pauvres, c'est tournez-moi, je suis cuit de ce côté-là. Il est mort sur un œil. C'est le tout gros truc, Saint-Laurent. C'est le tout gros truc. Car les mains que voici, là, il parle des mains du prêtre, touchent le verbe de vie. Retenez, mettez dans votre mémoire, si vous en avez une, cette phrase. Touche le verbe de vie. Et possède une puissance plus qu'humaine. Grande dévotion pour l'Eucharistie, je vous disais, qui dérive de l'immense amour de François pour l'humanité de Jésus. Et Thomas de Chalano, hein, nous disait, il communiait le plus souvent possible, alors même qu'à l'époque, ça devenait de plus en plus rare. Ça devenait de plus en plus rare, et d'ailleurs, c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y avait ce désir de voir l'hostie, c'est que on donnait moins la communion aux laïcs, mais un peu pour compenser, on leur disait, mais vous pouvez contempler l'hostie. Vous voyez, on ne mange plus l'hostie, mais on peut voir l'hostie. Et pour François, c'est vraiment une rencontre personnelle avec le Christ que de communier. Il y a un très très beau texte de François qu'on trouve alors dans un ensemble, c'est 28 textes qu'on appelle les admonitions, admonitiones. Alors, c'est des textes, c'est très certainement authentique, mais par contre, c'est un peu comme certaines paroles de Jésus, on ne sait pas trop dans quelles circonstances, à quelle époque... François les a prononcés, donc bon, c'est classé, mais l'ordre des numéros ne correspond pas à l'ordre chronologique. Et la première admonition, c'est un texte quasiment tout entier eucharistique, mais c'est hyper beau, hein, c'est à chialer. Alors je vous laisse deviner de quel fleuve c'est, ça chiale, mais ça nous fait comprendre, donc François dit de manière très ramassée, mais très puissante, sa dévotion eucharistique. Donc c'est le texte, je vous l'ai mis quasi en entier, je crois, vous voyez. C'est pas très long, hein, mais oui, je crois que vous l'avez quasi en entier. Le Père habite une lumière inaccessible, et Dieu est esprit, et personne n'a jamais vu Dieu. Puisque Dieu est esprit, il ne peut être vu que par l'esprit, car c'est l'esprit qui vivifie, tandis que la chair ne sert de rien. Donc ça, c'est une citation de...
Saint Jean.
Oui, alors quel chapitre ?
6.
Voilà, Jean 6, c'est le discours du pain de vie, quand même. Mais le Fils, en tant qu'il est égal au Père, ne peut être vu par personne autrement que le Père, autrement que l'Esprit Saint. Aussi, tous ceux qui ont vu le Seigneur Jésus-Christ comme voient les hommes, sans voir et sans croire, selon l'Esprit et selon Dieu, qui est le vrai Fils de Dieu, sont damnés. Bon, alors, on ne s'exprimerait plus comme ça aujourd'hui, mais ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est que dans le Fils, il y a le visible, dans le Christ, il y a le visible, puisque le Christ est homme, mais qu'il ne suffit pas de voir le Christ comme on voit... tout le monde, enfin, comme on voit ses amis, ses parents. Il faut le voir aussi dans la foi, c'est-à-dire dans ce qui nous met à niveau avec sa divinité, qui en tant que telle n'est vue que par l'esprit. Et cette chose-là, c'est-à-dire cette foi, comment dire, le moyen qu'on a, nous, alors pour les gens qui étaient en même temps que Jésus, je veux dire Saint-Pierre, Saint-Pierre. Saint-André, et puis les autres, là, les 12. Si vous voulez, c'est dans l'accompagnement, dans le compagnonnage avec Jésus, qu'on voit bien dans l'évangile, mais qui est cet homme, à un moment donné, ils se disent, mais quand même, c'est pas un bonhomme ordinaire, vous voyez. Mais nous, on dit, mais comment, c'est quoi l'acte humain qui me permet, humainement, de poser un acte où je traverse le visible pour aller jusqu'à l'invisible? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, quel est l'acte humain qui me permet de faire ça? Et pour François, c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, si le but c'est de s'appuyer sur le charnel, sur le matériel, pour aller jusqu'à l'esprit qui est Dieu, vous ne pouvez pas faire cet acte de foi si vous ne partez pas d'un truc matériel. Vous comprenez son raisonnement? Donc il dit, mais en fait, l'Eucharistie nous permet de poser l'acte de foi qui définit le chrétien. C'est-à-dire, je vois Jésus, mais mon regard va plus loin parce que dans la foi, je crois qu'il est Dieu. Alors c'est comme ça qu'il comprend, d'une certaine manière, presque la nécessité du sacrement eucharistique. Si Jésus avait dit, bon bah les gars, enfin il l'aurait dit mieux que ça, hein, mais s'il avait dit, les gars, j'ai ressuscité, mais en même temps, alors je suis content de vous voir, mais maintenant c'est quand même plus ma place, c'est plus au ciel. Mais bah maintenant, vous allez vous raconter au coin du feu que j'ai été mort, mais maintenant je suis ressuscité. Et puis bah, vous allez fonder une église et tout ça, et puis moi je vais vous aider de là-haut. Ça ne marchait pas. Oui, parce que du coup, les disciples, ils auraient raconté l'histoire de Jésus, mais c'était trop immatériel. Vous voyez, il nous faut une réalité où on est un peu mis au défi de traverser l'apparence pour aller vers l'invisible. Et c'est ça qui qualifie l'acte de foi en Jésus-Christ pour saint François. Alors ça pose plein de questions de dogmatique, c'est là où on voit que la spiritualité, c'est toujours génial et toujours embêtant, en fait. Hein. Alors, il continue. Et de même aussi, tous ceux qui voient le sacrement du corps du Christ consacré par les paroles du Seigneur sur l'autel aux mains du prêtre, sous les apparences du pain et du vin, et ne voient pas et ne croient pas selon l'Esprit et selon Dieu que c'est vraiment verré, c'est toujours ce verré, hein, le très saint corps et le sang très saint de notre Seigneur Jésus-Christ sont damnés. Bon, là, il pousse un peu, mais c'est pour... Au témoignage du Très-Haut lui-même qui a dit « Ceci est mon corps et le sang du Nouveau Testament. » Alors, bon, c'est la Nouvelle Alliance, hein, il cite les paroles de l'institution. « Et celui qui mange ma chair et boit mon sang possède la vie éternelle. » Dans quel évangile Jésus dit ça, rappelez-moi? Toujours saint Jean, hein, puisque vous vous souvenez que l'eschatologie réalisée chez saint Jean, c'est la vie éternelle. Hein, c'est le présent du salut, c'est la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Déjà là, pas encore. Enfin, je vous ai dû vous expliquer ça 1000 fois. Donc, un texte, finalement, qu'on peut lire en disant c'est de la dévotion, mais on se dit, mais il y a un énorme enjeu, finalement. C'est-à-dire que dans cette pratique nouvelle, qu'est l'adoration du Saint-Sacrement, Dieu teste ma foi. Pas tout à fait. Enfin, Jésus n'a pas dit prenez et regardez, il a dit prenez et mangez-en tous. Oui, d'ailleurs, c'est ça aussi que les protestants, nos frères protestants disent, mais vous faisiez n'importe quoi. Parce que justement, l'Eucharistie est là pour être consommée, et c'est parfaitement exact. C'est parfaitement exact. Elle est faite pour être mangée. Enfin, c'est prenez et mangez-en tous. Mais dans ce nouveau contexte, François dit, il y a dans l'adoration eucharistique, et même si ça dure que quelques secondes à la messe, c'est là que ça passe ou ça casse, en fait. Vous êtes chrétien ou vous ne l'êtes pas. Parce que vous êtes capable de traverser les apparences visibles pour poser un acte de foi dans l'invisible. Et tout ça aussi, alors corrélativement, c'est l'humilité de Dieu. Oui, de nous, de notre part, il y a s'appuyer sur le sensible pour atteindre l'invisible. C'est comme un tremplin, si vous voulez. Mais du point de vue de Dieu, c'est le mouvement inverse. C'est l'humilité de Dieu qui, pour nous permettre d'accéder à lui, transite par une réalité extrêmement humble, et encore plus humble que l'humanité, hein, d'une certaine manière. L'incarnation, c'est un mouvement d'abaissement, mais on pourrait dire une pauvre hostie, hein, du pain, c'est un peu de blé, un peu d'eau. Enfin, ouais, c'est vraiment extrêmement humble comme réalité du monde. Mais Dieu s'abaisse jusque-là. C'est-à-dire que François comprend, comme dans la suite de ce qu'on appelle, comme dans saint Paul en Philippiens 2, la kénose, hein, donc c'est le videment, enfin, c'est pas très beau de dire ça, mais le videment de soi-même, enfin, c'est dans le prolongement que Jésus institue l'Eucharistie. Bon, alors je me suis écarté de mon texte. Rapport au fait que je suis malade. Nya nya nya. Bon, la 40 nombre, c'est à peu près ce que j'ai dit. Ah bah oui, je le dis là, tiens, regardez. Grâce à la messe et à l'adoration du Saint-Sacrement, grâce à la messe, pas simplement manger l'hostie, mais l'adoration du Saint-Sacrement, nous avons la possibilité de croire que Jésus est Dieu, et donc d'être sauvé. Voilà. C'est ça le tournant franciscain. Alors, je peux lire la suite du texte de la première admonition, c'est le deuxième paragraphe. « Aussi, c'est l'Esprit du Seigneur habitant dans ses fidèles qui reçoit le corps et le sang très saint du Seigneur. Tous les autres qui n'ont pas part à cet Esprit et qui ont l'audace de recevoir ce corps et ce sang mangent et boivent leur condamnation. » Là, qu'est-ce qu'il cite qui, là, déjà ? Bravo, bravo, la première au Corinthien, c'est ce que j'appelle l'hostie qui tue. Hein. Il dit, c'est quand il engueule les Corinthiens, il dit « C'est pour ça que vous faites n'importe quoi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... » malade, et qu'il y a même des gens qui sont morts. Ça facilite la catéchèse de la première communion, ça. Merci Saint-Paul. Enfin bon, aujourd'hui, on s'exprime pas comme ça. On est devenu gentil. Aussi, enfants des hommes, jusqu'à quand aurez-vous le cœur dur ? Pourquoi ne connaissez-vous pas la vérité ? C'est très beau, nous, parce qu'avoir le cœur dur, on mettrait ça plutôt du côté de la charité. Et là, François, j'aime tellement François d'Assise. Il nous dit, mais c'est pareil en fait, si vous ne croyez pas que Jésus est présent dans le ciel, c'est pas juste parce que c'est intellectuellement difficile à croire, vous avez peut-être l'impression que c'est un problème intellectuel, mais c'est aussi que vous avez le cœur dur. Si vous aimiez, c'est-à-dire si vous saviez, si vous étiez entré dans ce grand mouvement d'humilité qui est celui du Fils de Dieu, vous croiriez. Ça c'est très fort aussi, hein, parce que Enfin, c'est quand même, faut reconnaître que c'est quand même pas évident au niveau intellectuel de dire bon, alors voilà, c'est l'hostie, c'est plus l'hostie, ça a exactement la même chose que l'hostie, mais c'est plus du tout une hostie. Mais il n'y a rien qui distingue d'une hostie quand tu vas la voir. Enfin, on patine toujours un peu pour expliquer ce qui est pareil, ce qui a changé. Donc, intellectuellement, c'est quand même un très grand défi de développer une théologie de l'Eucharistie. Donc, on pourrait dire tous les problèmes sont intellectuels, mais François dit peut-être qu'il y en a, mais la vraie racine, c'est la sclérocardia. Le cœur dur, il faut avoir un cœur de chair, hein. C'est un cœur d'homme, hein. Enfin ça aussi un cœur de Dieu, hein, mais c'est un cœur qui aime, et c'est un cœur qui peut être blessé. Parce que la chair, le problème du cœur de pierre, c'est que, enfin c'est solide la pierre, mais ça, pour aimer, il faut accepter d'être blessé. Et comme il apparut aux saints apôtres dans sa véritable chair, ainsi se montre-t-il à nous maintenant dans le pain sacré. Ça va, oui, ben j'ai anticipé, je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et comme de leurs yeux de chair, ils ne voyaient que sa chair, mais qu'ils croyaient voir Dieu lui-même, qu'ils contemplaient des yeux de l'âme, Aussi faut-il que nous-mêmes, voyant le pain et le vin des yeux de notre corps, nous voyons et croyons fermement que c'est son très saint corps et son sang vivant et véritable. C'est de cette façon que le Seigneur est toujours assez fidèle, comme il l'a dit lui-même, « Voici que je suis avec vous jusqu'à la fin, jusqu'à la consommation des siècles. » Où c'est ça dans l'Évangile ? Matthieu 8, c'est la dernière parole, c'est le dernier verset. Hein. « Ego met humine eimi », c'est-à-dire que « ego eimi », c'est l'autodésignation de Dieu en Exode 14, et il ouvre le cœur de Dieu, ce qui en grec, c'est pas très bon de dire « ego met humine eimi », mais il ouvre la désignation de Dieu, et au milieu, il met « avec vous ». En fait, dans cette phrase, vous avez tout. C'est l'Évangile est prodigieux quand même. En quatre mots, « ego met humine eimi ». Alors, vous voyez ça, il y a toute une étude très savante du Père Congar pour dire quand est-ce qu'on a, d'où vient cette interprétation eucharistique de « je suis avec vous jusqu'à la consommation des siècles ». Parce que c'est pas sûr que ce soit le sens littéral de que Jésus soit avec nous sur cette terre jusqu'à la fin du monde, la parousie, hein, jusqu'au télos. Hein, c'est... Mais est-ce que cette interprétation spécifiquement eucharistique, de quand elle date ? Alors, vous irez dire Congar si ça vous intéresse. Bon, ça, je vous ai raconté tout ça, donc je passe. On retrouve un peu... Alors, l'idée, je vous ai dit, ce qui pour nous est sceau de la foi, rendu possible par la vision de l'hostie, plus que par la mendication, d'une certaine manière. C'est ce fameux voir, hein, parce que la foi, c'est plus proche du voir que du manger. C'est ça le nœud de... D'où il sortait, enfin moi je trouve ça génial, je sais pas d'où il sortait ça, ces trucs-là. Mais alors, le pendant, je vous ai dit, c'est l'humilité. Alors ça, vous le retrouvez, c'est vraiment la correspondance. Ce que Dieu fait en s'humiliant quand il s'incarne, vous le faites en croyant, en adorant l'Eucharistie, en disant, mais au-delà de l'apparence, Jésus est là, homme et Dieu. Là, il le retrouve dans un très beau texte, qui est la lettre à tout l'ordre. C'est une lettre, donc, il a écrite, alors je sais plus trop la date. Ah bah si, je l'ai mise là, 1220. Donc c'est 6 ans avant sa mort. Donc il y avait déjà plusieurs milliers de frères mineurs, hein, puis il y avait des clarisses, tout ça, ça prenait de l'ampleur. Donc il veut un petit, c'est pas son testament, mais il y a quand même un petit peu de ça. Hein. Que tout homme, le testament serait le cantique des créatures plutôt. Que tout homme craigne, que le monde entier tremble et que le ciel exulte quand le Christ, fils du Dieu vivant, est sur l'autel entre les mains du prêtre. Ô admirable grandeur et stupéfiante bonté, ô humilité sublime, ô humble sublimité, on dirait du Saint-Bernard, c'est un pastiche sinon rien, c'est un pastiche de Saint-Bernard, mais le latin se prête très bien à ce genre de choses. Le maître de l'univers, Dieu et fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de salut, au point de se cacher sous une petite hostie de pain. Ça vous rappelle rien ces paroles ? C'est la chanson, mais vous saviez que c'était Saint-François ?
Oui.
Ah bon ?
Oui. Dans un petit livre pour enfants sur Saint-François.
Mais tout le monde le savait ? Non, pas tout le monde. Je voulais vous le faire découvrir. Voyez, frère, l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Humiliez-vous, vous aussi, pour pouvoir être exalté par lui. Ne gardez rien, gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Alors, maintenant j'en arrive dans les 5 minutes qui me restent aux raisons dogmatiques de cette histoire-là, en fait. Alors tout ça est lié à un gigantesque problème qui est la disparition du platonisme chrétien dans le monde latin. C'est pour ça que ça n'existe que chez les latins, parce que les grecs sont toujours restés platoniciens, et nous, à un moment donné, on n'était plus platoniciens. Les pères de l'Église, avec des différences qui sont plus que des nuances quand on est des érudits, mais pour mon propos caricatural, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails, sont tous platoniciens au sens où ils adhèrent tous plus ou moins à une sorte de représentation du rapport entre la matière et l'esprit, où le signe visible, le modèle accessible par les sens, conduit comme de lui-même l'esprit à la possession, et, ou même à la théoria, à la contemplation de ce qui est signifié dans la matière. Bon, c'est complètement platonicien. C'est vraiment le modèle, c'est vraiment l'ontologie platonicienne. Vous avez un archétype ou un paradigme, c'est plutôt le vocabulaire qu'emploie Platon. Ça, c'est... Alors, pour Platon, c'est dans le topos noetos, c'est ce fameux lieu intelligible dont il nous parle en long, en large et en travers, un peu partout, enfin, notamment dans la République, mais pas seulement. Mais... Et puis vous avez le monde de l'opinion, donc mais dans le monde de l'opinion, vous avez quand même un moyen, c'est ce qui différencie Platon de Parménide, c'est que vous avez un moyen quand même, par cette signification, occasionnellement, je dirais, par l'occasion d'une réalité sensible, vous pouvez élever votre intelligence au monde intelligible, et pour les chrétiens, ça va être par l'intermédiaire d'une réalité sensible qui peut être de toutes sortes, parce que c'est ce qui appartient à l'ordre sacramentel, mais au premier millénaire, l'ordre sacramentel, c'est l'Eucharistie, le baptême, mais aussi la bougie que tu mets devant une icône, c'est l'icône elle-même, c'est tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, signifie Dieu, le salut, le Christ. Ben, par une loi générale de l'être, vous met en contact réel avec ce qui est signifié. Mais par une loi générale de l'être, parce qu'on est tous platoniciens. Est-ce que vous venez de comprendre ce que j'ai dit là ? Est-ce que vous connaissez Platon ? Mais même, je suis nul en philo, hein. Si je dis Platon, c'est Platon pour les nuls. Hein. C'est Platon, voyez un peu comment on accède à la vérité. Donc il y a l'aletheia, toujours identique à elle-même. Mais nous, on n'est plus dans ce truc-là, on a déchu. On est tombé dans le monde de l'opinion, du changement, du multiple et tout. Mais il est plus optimiste que Parménide, en un sens, parce que Parménide, l'être est et le néant n'est pas. Mais lui, il nous dit qu'il y a quand même un moyen de remonter. Et on remonte selon une logique de la participation qui fait que, même s'il est incapable d'en rendre compte, et Aristote ne se privera pas de lui faire le reproche, la réalité, la vraie réalité, qui est une idée invisible, elle est capable de se... Alors, phénoménaliser, alors il ne s'exprime surtout pas comme ça, mais c'est comme ça que je vois les trucs, il se phénoménalise dans le monde sensible, de telle sorte que quand vous voyez la réalité sensible, ça déclenche quelque chose dans votre âme qui vous met en contact avec la vérité intelligible que vous aviez perdue par cette fameuse chute dans le monde des corps. Mais c'est une loi générale de l'être, ça. Et du coup, vous voyez que pour les pères de l'Église, les questions du type, mais quand le prêtre il fait hocus pocus là, je te marie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enfin tous les sacrements, quand le prêtre fait ça, on est sûr que ça marche? Ça, c'est une question qu'on se pose. Enfin, la plupart des gens, ils disent non d'ailleurs. Ils disent ça va, c'est du. Mais vous voyez que quand, dans une logique qui n'est plus du tout la nôtre, mais qui est platonisante, à partir du moment où une réalité céleste a trouvé de quoi se phénoménaliser, par une loi générale de l'être, elle vous met en contact avec les réalités signifiées. C'est beaucoup plus facile de croire au sacrement. Jean-Daniel, je crois que tu poses une question.
Oui, mais en fait, je comprends très bien, parce que c'est-à-dire que dans cette logique-là, c'est peut-être bizarre de voir les choses comme ça, mais il n'y a pas du tout de différence entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, parce qu'en fait, tout est symbole de tout. Et donc, par exemple, comment on peut penser l'Eucharistie autrement qu'en tant que symbole ?
Eh bien, on le pense pas autrement comme ça, on le pense comme symbole, et c'est bien pour ça que c'est efficace, actif, réel, et que le Christ est là.
Oui, mais donc justement, en fait,
c'est-à-dire que le signe...
Ça ne permet pas du tout de comprendre la spécificité de...
Mais parce que, voilà, alors sa question, elle est intéressante, parce qu'elle est typique. En fait, c'est exactement ces questions-là qu'on s'est mis à se poser dans le monde latin à partir du 8e siècle. Mais pour se poser cette question, il faut déjà avoir quitté une espèce de disponible, de pensable disponible qui est platonisant. Ça nous est très difficile, on n'est plus platonicien, plus personne n'est platonicien. Je dirais nativement, on peut le devenir par choix, mais qu'est-ce qui a remplacé Platon ? C'est la science empirico-formelle. On est tous des scientistes, on est tous des rationalistes, on est tous athées à la base de l'école. Vous buvez quand vous allez à l'école de la République, on vous formate l'esprit, mais par de très bonnes intentions. Mais je dirais, dites-vous que notre rapport vis-à-vis des sciences empirico-formelles, qui est de dire c'est ça qui est le vrai modèle de savoir. Allez, je caricature un peu, mais en gros, à l'époque des Pères, c'était Platon. Et donc, à partir... attention, lisez Plato Christianus, hein, ce livre incroyable d'André Ivanka qui explique exactement qu'est-ce qu'on a repris de Platon et qu'est-ce qu'on a christianisé de Platon. Évidemment qu'il naturalise pas... Évidemment que ce n'est pas une naturalisation des choses, c'est évident qu'il voit très bien que c'est surnaturel, même si ce n'est pas un vocabulaire qu'on va utiliser. Mais ce que j'essaye de vous faire sentir, c'est que il suffit que Dieu advienne dans le monde des hommes pour que, selon les lois habituelles du monde des hommes, enfin de l'être, si on peut appeler les choses comme ça, tout ce que fait Jésus et tout ce qu'il va instituer comme sacrement et qui va demeurer dans l'histoire, dans le registre du matériel et du visible, va nous mettre en contact avec la réalité signifiée, mais il n'y a pas de tour de magie, c'est comme ça, l'être fonctionne comme ça. Alors, il faut quand même que j'avance, mais donc alors, mais cette ta question est très intéressante parce que c'est exact. Quand on a plus ça allait et moins on a compris Platon. Et donc plus ça allait et plus les moines qui avaient conservé les textes des pères pieusement, ils lisaient les textes et puis on dit mais en fait qu'est-ce que dit saint Augustin ? Alors il y a des homélies de saint Augustin où il parle de l'Eucharistie qui est symbole. Attends, je termine puis vous poserez parce que je vois que.
J'ai une formulation qui me semble rapide.
Alors vas-y.
C'est que l'Eucharistie ne diffère pas de ce palin que je vois par le mode opératoire de renvoi au
oui.
référent, mais juste par le référent qu'il renvoie qui est surnaturel et non pas naturel.
Et aussi par son phénomène. Parce que de fait, c'est tout à fait. Le phénomène eucharistique, il est complètement lié au fait que le Christ, la veille de sa passion, a pris du pain. C'est-à-dire, Jésus a introduit un nouveau phénomène matériel dans le monde. Mais une fois qu'il est dans le monde, effectivement, le mode opératoire, quoique surnaturel, il est peut-être surnaturel, mais on n'a pas à se torturer l'esprit en disant mais c'est un miracle. C'est tout le contraire d'un miracle, en fait. Ça ne fait qu'épouser à un autre niveau, si vous voulez. Vous voyez, le problème n'est pas tellement de dire c'est surnaturel par rapport au naturel, c'est plutôt de dire. Est-ce que ça contredit les lois de la nature ou est-ce que simplement ça les pousse un peu plus loin, voyez ? Quand on est platonisant, les sacrements, mais zéro problème, tout va bien. Enfin, c'est même, on voit pas, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors, quand on perd Platon, le problème c'est qu'on se récupère avec des textes. On a gardé une foi, je dirais, bien dure et solide, notamment dans l'Eucharistie, puis on lit les textes qu'on honore, les autorités, saint Augustin, il parle d'images, de signes, similitudo, figura, typus, puisqu'on a traduit en latin, et puis tout le monde dit, mais qu'est-ce qui. Image, mais c'est quoi cette image ? Puis on se dit, ben, est-ce que c'est comme, je sais pas, on a fait récemment le père abbé est mort, et donc à grands frais, on a demandé à un prêtre, ou plutôt à un gars du village qui avait deux, trois pinceaux, et d'essayer de nous représenter le truc pour qu'on puisse se souvenir de. C'est ça l'Eucharistie ? Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, on est en train de comprendre l'image. Quand on n'est plus platonisant, dans un rapport d'extériorité avec ce qu'elle signifie. Là où pour Platon, tout se joue dans l'intériorité, en fait. La réalité est toujours plus ou moins, pour signifier une réalité, il faut que la réalité soit déjà, d'une manière ou d'une autre, intérieure au signe. Mais quand on n'est plus platonisant, en fait, pour nous, l'image, vous voyez la flèche verte avec le panneau vert, ça indique la sortie de secours. Quand vous êtes platonisant, vous dites, ben, le signe là possède la vérité qu'il signifie. C'est-à-dire que s'il y a le feu, je saute très haut et j'essaie d'attraper le petit panneau, puisqu'il signifie la sortie. Mais nous, on pense, justement, ça monte. Et là, en fait, vous mourrez cramé, puis de toute façon, pas assez déjà. Parce que là, vous voyez, c'est, pour nous, le signe, c'est le panneau indicateur. Il vous indique la sortie à gauche en tant qu'il n'est pas la sortie à gauche. Quand on est platonisant, il vous indique la sortie à gauche en tant qu'il est, il est la sortie à gauche, d'une manière ou d'une autre. Peut-être pas sous le mode parfait. Du topos noetos ou de Dieu, mais sous un mode qui vous permet vraiment d'y remonter. C'est vraiment la doctrine de la participation. Alors, quand on a perdu ça, on se retrouve avec un vocabulaire qui était réaliste pour les platonisants et qui paraît terriblement déficient dans le réalisme pour tous ces gens qui passaient leur vie à célébrer la messe. Et donc, on s'affole. À ce moment, il y a deux tendances. Il y a une tendance qui va garder le vocabulaire. Et alors là, les historiens se disputent, certains disent non, ils n'ont pas simplement gardé le vocabulaire, mais ils avaient suffisamment de culture philosophique pour garder le contenu, mais bon, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on les a lus, donc leurs contemporains ont dit, mais d'accord, ils parlent comme saint Augustin, mais c'est trop figuré, c'est pas qu'une image de l'Eucharistie, du Christ l'Eucharistie, c'est le Christ en vérité. Ce que jamais un bon platonisant dirait, la vérité, elle est forcément au ciel, elle n'est pas sur la terre. Donc vous avez des gens qui vont essayer de garder le vocabulaire, mais au risque de l'affaiblir terriblement, et en gros de devenir calviniste avant l'heure, et d'autres personnes qui vont essayer de garder la foi dans le réalisme eucharistique, mais en changeant le vocabulaire. Et c'est cette tendance-là qui finalement a gagné, mais en deux coups, ça s'est fait en deux coups. Premier coup, de la plus mauvaise des manières possibles, c'est-à-dire que, enfin, la plus mauvaise, on n'avait pas le choix, mais non pas par une technicité ontologique, alors que d'une manière ou d'une autre, c'est quand même une question d'être, cette histoire. C'est là où moi, je défends le fait que, malgré tout ce qu'on dit, on a besoin d'une ontologie pour faire de la théologie. Question très disputée, mais en tout cas, moi, je maintiens qu'à cause de l'Eucharistie, quand Jésus dit « tuto est in to soma mu », il y a « est in ». Donc, on a besoin d'une pensée de l'être. Donc, on va pas utiliser une ontologie, mais on va dire ben, finalement c'est une reduplication de l'incarnation. C'est très mauvais au niveau sacramentaire, parce que en tout cas si on le pense comme ça, si on pense juste comme ça, c'est-à-dire on dit ben, Jésus revient vivre sous nous, comme il revient vivre non pas en prenant chair dans le sein de la Vierge Marie, mais il se fait pain, comme il s'est fait homme, il s'est fait pain. Mais du coup, ça nous angoisse, en fait. C'est à ce moment-là qu'on se met à avoir de grandes angoisses de profanation de l'Eucharistie. Parce qu'on se dit, mais mince, j'ai laissé tomber l'hostie. Est-ce que Jésus s'est cassé une jambe au ciel? Si vous êtes... Non, mais rigolez pas, c'est des gens, il y a des questions qui se posent, où on s'est dit, mais si tu mâches l'hostie, est-ce que tu fais mal à Jésus? C'est à ce moment-là qu'on dit, faux, ce qu'on entend parfois encore chez les vieilles gens, qui disent, mais j'ai mâché l'hostie, et ben, mais c'est pas grave. Mais en fait, ça vient de là, on s'est dit... Et du coup, on s'est mis à transposer de manière trop réaliste. Alors, les langages techniques des philosophes, et je pense de théologiens, c'est l'ultra-physicisme, donc ça, c'est péjoratif. On s'est mis à transposer comme si, finalement, le pain n'était qu'un voile pudique posé sur l'humanité de Jésus. On est très loin du platonisme et de l'ontologie, mais au moins, ça sauve le réalisme. Mais oui, Gertrude, c'est pour ça que je la trouve géniale, cette femme, elle a senti le truc. Parce qu'elle ne dit pas « c'est comme Jésus ». Sur les routes de Galilée, elle dit c'est comme Jésus au tombeau. C'est, à mon avis, beaucoup plus juste. Et puis, alors, donc, et alors ça a eu plein de conséquences liturgiques. À ce moment-là, on avait tellement la trouille que, par exemple, les fidèles, qui sont toujours des gens maladroits, hein, les fidèles, les laïcs, excusez-moi, mais c'est. Donc, on s'est dit, mais si on leur donne le calice, ils vont forcément le renverser, ou il y aura une goutte. Et on s'est dit, mais mince, c'est une profanation. Ce qui n'aurait pas gêné. Au premier ministre, on dit, bon ben voilà, mais quand le vin va s'évaporer, le signe va disparaître, zéro problème. Mais quand on voit ça comme une reduplication de l'incarnation, tout ce qui arrive à l'hostie, c'est comme ça arrive à Jésus, vous voyez. Donc du coup, si vous tombez une hostie, on dit, mais en fait, t'es comme les gardes qui viennent arrêter Jésus, tu files une baffe à Jésus. Donc les gens étaient complètement stressés, on s'est mis à avoir peur de communier. Ça a sauvé le réalisme, mais ça a induit des réactions, alors à la fois pieuses, mais complètement désaccordées avec le sacrement. Alors, les curés, qui sont jamais à court d'idées pour brimer les laïcs et prendre leur pognon, ils ont dit, bah, dans ce cas-là, on va... la coupe, c'est verboten pour les laïcs. Et c'est aussi à ce moment-là qu'on s'est dit, mais c'est quand même pas très habile d'avoir cette grande hostie. Alors, normalement, on a tous part au même pain. Hein. L'unité de l'Église, ça encore, c'est très platonicien, mais je prends du retard. Moi, c'est une grande hostie. Il faudrait une seule hostie qu'on coupe en plein de petits morceaux. Ça serait la vérité liturgique. Et on se dit, ça fait des miettes et tout, les miettes, ça tombe. Non, on va faire autre chose. On va faire des hosties en portions individuelles. Ça évite les miettes, mais au niveau liturgique, c'est déplorable parce que c'est du coup une conception individualiste de la réception du sacrement, là où, bien sûr, tu reçois Jésus comme personne, mais en tant que tes fils ou filles de l'Église. Vous voyez, donc... On est en train d'avoir un peu une... Donc ça a plein de conséquences déplorables, cette histoire-là. On va s'en sortir. Alors, spirituellement, par des génies comme Gertrude, Saint-François et même le curé d'Ars, moi je pense que les saints... Mais bon, bref. Et théologiquement, quand on a récupéré Aristote et que, génialement, on a fini par développer, utiliser les catégories d'Aristote pour dire, bon, bah, écoutez les gars, en fait c'est simple. Les accidents, c'est-à-dire tout ce qui est visible, sensible, que je touche, que je mâche, que je mange, les accidents, ça ne bouge pas. Donc si tu mords l'hostie, tu ne mords pas Jésus. C'est les accidents, ça reste les accidents du pain. La substance, ce qui change, ce qui devient vraiment le Christ, c'est la substance, qui est un principe d'être. On retombe dans l'ontologie, et c'est une sacramentaire très très fine et intelligente, plus du tout platonisante. C'est vraiment... Mais enfin, c'est ça qui est prodigieux. On a réussi avec Aristote. Enfin, je sais, merveilleux ce qu'ils ont fait, les scolastiques. Mais ça reste invisible. Mais on dit, mais donc, du coup, on déstresse, en fait. Vous voyez, on est capable de remettre une certaine distance entre ce qui va arriver à l'hostie et le contenu intérieur du sacrement. Sauf que, il y a toujours toute médaille à son revers, c'est que, du coup, ça peut tomber dans l'excès inverse. C'est-à-dire, mais dans ce cas-là, si c'est seule la substance qui change et que c'est invisible... Mais du coup, à quoi bon l'hostie, finalement? C'est-à-dire qu'on a du mal à comprendre pourquoi, finalement, il faut quand même que cette substance du pain qui est devenue le corps du Christ, pourquoi ça passe quand même par du pain? C'est-à-dire qu'on a gagné d'un côté, on a perdu de l'autre, vous voyez? Et c'est là où, en dogmatiquement, quelqu'un qui dit « Ah, je vais à l'adoration du Saint-Sacrement parce que je veux voir Jésus », un bon dogmaticien dit « Mais mon pauvre, t'as rien compris. Tu ne vois pas Jésus. Précisément, tu ne vois pas Jésus. » Tu vois les accidents, et les accidents, c'est ceux du pain. Et pareil, quand tu touches l'hostie, c'est pour ça que j'insistais sur il a touché. Voilà. Le curé d'Ars part comme ça. Hein, il dit, mais on a l'impression, il dit, mais je touche Jésus. Alors, les dogmaticiens, corporation honorable, mais qui. Ils sont toujours très gênés par ces phrases-là parce qu'ils disent, mais c'est pas une hérésie, mais c'est extraordinairement maladroit au niveau dogmatique. Puisque précisément, tout ce qui va mobiliser notre corps dans le rapport à l'hostie, par principe, ça va pas être la substance, ça va être les accidents. Mais moi, je pense que c'est très bien la dogmatique, ça permet d'éviter les erreurs, mais que les spirituels, ce qu'ils perdent en précision, ils le gagnent en sainteté, et que c'est quand même François et Gertrude qui ont raison, au sens où on n'a peut-être pas les concepts pour le dire, mais pour que justement l'Eucharistie garde sa raison d'être, parce que malgré tout, on a beau dire ce qu'on veut, à un moment donné, même si c'est manger l'hostie, c'est les mâchoires, c'est les dents, c'est les sucs gastriques, il n'y a rien à faire, ça a un rapport avec ta vie éternelle. C'est ça qui est impossible à piger, vous voyez. Alors les dogmaticiens, ils sont très forts pour nous, mais je ne saurais pas comment vous le dire, mais le bon Dieu a voulu que ta destinée éternelle au ciel, elle ait un rapport avec ton estomac. Mais c'est vous voyez, comme c'est la croix que c'est pour un philosophe, mais c'est la vérité de l'incarnation, ça. Alors les dogmaticiens, ils peuvent aller jusqu'à un truc, et puis c'est les machins là, qui prennent le relais, les saints, et moi du coup je me dis, gardons évidemment, c'est très précieux, le concile de Trente s'est aptissimé le langage de la transsubstantiation, mais gardons quand même les intuitions spirituelles, et disons-nous, mais quand on va adorer le Saint-Sacrement, peut-être qu'on n'a pas les mots techniques pour dire ce qu'on fait, mais on a raison de le faire. Et c'est vraiment l'humilité de Dieu et le réalisme de l'incarnation qui est en jeu. Même si on n'a pas les mots, et c'est heureusement qu'on n'a pas les mots. Parce que si on avait les mots, c'est toujours ce qui me fait peur, c'est qu'à force de vouloir expliquer, on devient rationaliste. Et quand on devient rationaliste, l'étape d'après, c'est l'athéisme, absolument. Bon, j'ai été trop long, mais j'ai fini. Donc c'est très tard, donc je propose qu'il n'y ait pas de questions. Sauf s'il y a vraiment des questions vitales, mais c'est très très tard. Est-ce qu'il y a une question vitale? Vous avez tout compris, ça va, c'était clair. Vas-y, Jean-Daniel.
Mais en fait, je comprends très bien quand vous parlez de l'hyperphysicisme, parce qu'en fait, j'ai l'impression.
L'ultraphysicisme.
L'ultraphysicisme. Et que vous parlez des profanations, notamment, en fait, comment, si on force à ce point-là la distinction entre substance et accident. C'est-à-dire qu'en fait, les profanations d'hostie n'en sont pas parce que ça s'attaque simplement aux...
Voilà, c'est
ça. En fait, on sait bien que c'en sont, et c'est pour ça qu'on dit des messes de réparation.
Voilà, ce qui montre bien que on fait des choses dont on n'est pas capable de... Enfin, qu'on ne peut pas expliquer dogmatiquement. Par ailleurs, moi, je ne milite pas du tout pour qu'on revienne à l'ultraphysicisme. Je pense que c'est très précieux et très intelligent d'avoir cette distinction, mais on n'a pas réussi à forger jusqu'au bout. De même qu'on n'est pas capable, dogmatiquement, je pense vraiment qu'on n'est pas capable d'expliquer. Regardez le monophysisme. On s'est donné un mal de chien pour expliquer comment l'humanité de Jésus pouvait être unie à l'hypostase du Verbe. Et en fait, les monophysistes disent que la seule manière de faire, c'est que ça soit un plein qui entre dans un trou. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui, dans l'humanité de Jésus, il faut que sa nature humaine soit incomplète pour que l'hypostase du Verbe vienne la remplir. Ça a été hyper compliqué. Il a fallu attendre Calcédoine, et même là, c'est pas terminé, pour comprendre que l'humanité du Christ, elle est parfaite, c'est-à-dire que l'hypostase du Verbe ne s'unit pas à la nature humaine du Christ en raison d'une déficience de cette nature humaine, mais en raison de sa perfection. C'est-à-dire que, d'une manière très générale, Dieu, c'est du parfait qui accomplit du parfait. C'est pas du parfait qui accomplit de l'imparfait. Or, on se donne un mal de chien, puis à un moment donné, on se dit, mais en fait, l'union de l'hypostase du Verbe au corps mort de Jésus... C'est ce que croit l'Église, mais j'ai jamais, jamais, jamais lu une explication théologique de ça. Parce que qu'est-ce que vous voulez ? L'âme, elle est... Ce qu'on dit, c'est que Jésus est vraiment mort parce que son corps et son âme se sont vraiment séparés, mais que l'hypostase du Verbe est restée unie et au corps et à l'âme. Et nos beaux dogmes, je veux dire, on est complètement à la rue pour ça. Ben, c'est un peu la même chose avec l'union de la substance et des accidents, on est à la rue. Et pourtant, on sent des trucs. On sent qu'on profane une hostie, on sent qu'on a raison d'adorer Jésus. On sent que quand le curé d'Ars, il chiale en disant « mais je tiens Jésus dans mes mains », oui, c'est des accidents, mais n'empêche qu'il a raison de le dire. Mais on n'est pas capable de l'expliquer dogmatiquement. En tout cas, pour le moment, peut-être qu'un jour, on se dira, mais on fera repousser le mystère, parce qu'à un moment donné, si on arrivait jusqu'au bout à penser la matière, on fait exactement ce que font les sciences, c'est-à-dire qu'elles croient penser. Elles croient, les matérialistes sont tous des idéalistes. Ils croient penser la matière, mais en fait, c'est des équations mathématiques hein, qu'ils pensent. Le seul vrai rapport ultime avec la matière, c'est la charité. Parce qu'on ne peut pas aimer sans corps. C'est... Erwan, tu avais encore une question vitale. Elle est plus vitale. Eh bien, on va dire les vêpres. Les complices.